France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Une belle botte d'asperges? Regardez comme elles sont appétissantes. Joliment fagotées sur leur lit de salade, se détachant souverainement sur un fond si sombre qu'il paraît drapé de pourpre, elles sont à la fois mortes et enjouées, disait Georges Bataille. Ah pardon, j'oubliais de préciser, c'est toujours un peu le problème avec cette idée de parler d'image à la radio. Nous ne sommes pas au marché, mais au musée. Nous regardons une botte d'asperges peinte par Manet en 1880. Mais ne croyez pas que nous nous détournons pour autant des choses de la vie. C'est même tout le contraire. Et on le comprend en lisant le beau livre de Paul Audy, Le vrai du beau, regard sur la peinture. Car pourquoi y a-t-il des peintres plutôt que rien? Parce que, je cite, « ils se sont rendus compte que personne ne voit la présence des choses, mais uniquement les choses présentes, et que la peinture a justement ce pouvoir insigne de la donner à voir. » C'est tout nous, ça, non? Alors, allons y voir. Les asperges sont là, elles frémissent de leur pure présence, elles nous attendent, vous êtes servis. C'est ainsi parfois avec l'histoire, mais aussi avec la philosophie. Elle nous enseigne à devenir davantage, comme le disait Nietzsche, en prenant le parti pris des choses et de la vie. On en parle avec Stéphane Guigan et Paul Audy, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Éléonore Chaline, et vous ne verrez jamais plus les asperges de la même manière. Bon appétit.
C'est une cueillette qui est extrêmement vive, en Languedoc comme en Provence. Les gens ont leur coin qu'ils ne disent pas, tout comme les champignons. Et la façon de les préparer, il y en a trois. On peut les manger en vinaigrette, comme les asperges cultivées. On peut les manger en omelette. Et moi, personnellement, la recette que je préfère, c'est le velouté d'asperges sauvages. C'est un plat extrêmement raffiné, qui est donc une soupe avec des pommes de terre. On réserve les pointes pour les remettre ensuite dans le potage. Donc vous avez à la fois le côté gustatif et esthétique. Et donc la récolte des asperges est présente en littérature, du moins en Languedoc, dès le 18e. Pour les témoignages antérieurs, comme les pratiques populaires étaient peu décrites, je ne peux pas attester historiquement, mais si l'on en juge par la vivacité de cet acte culturel encore aujourd'hui, cela doit être une pratique ancienne.
En littérature, disait Josiane Hubeau dans Bouche à oreille, France Culture 2023, mais aussi, on va le voir, en peinture. Bonjour Stéphane Guigan.
Bonjour.
Vous êtes historien et critique d'art, conseiller scientifique auprès de la présidence du musée d'Orsay, pour lequel vous avez organisé quelques expositions mémorables, notamment le modèle noir en 2019, Manet Degas en 2023. Vous avez écrit aussi de nombreux livres sur Théodore Gautier, 2011 chez Gallimard, Caillebotte, Bonnard, 2022 et 2023 chez Hazan, et votre dernier livre, Matisse sans frontières, est paru chez Gallimard l'année dernière. Enfin, le dernier, pas tout à fait. Dans un mois, paraît chez Norma, un petit livre intitulé « Bonnard et ses chiens » dans la collection « Amigos Forever ». Il y a déjà eu Picasso, Saint-Laurent, John Mitchell. Donc, il n'y avait pas que des chats, en fait, chez Bonnard. Il y avait aussi des chiens.
Non, il préférait, dit-on, les chiens aux chats.
Ah oui.
Oui. Il a également représenté beaucoup de chats. Et c'est un peu son côté baudelairien.
C'est ça.
Il a aimé les félins autant que les canins.
Ah ben, on va justement se situer entre Baudelaire et Mallarmé aujourd'hui.
C'est pour ça que j'en parle.
Avec Manet. Bonjour, Paul Audy.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur d'une œuvre également prolixe, une trentaine de livres qui explorent de manière très singulière ce que vous appelez l'est éthique, c'est-à-dire le temps et le lieu de l'effraction de l'éthique dans la question esthétique. Vous développez cette philosophie dans un maître livre créé, paru ou reparu chez Verdier en 2010. Et pour vous, la création, c'est l'art de s'expliquer avec la vie ou de tenir tête, pour reprendre le titre de votre avant-dernier livre, Prix Fémina de l'essai. Et cet art, vous le développez par des lectures admirative de Rousseau, Nietzsche, Camus, Romain, Gary et bien d'autres. Et votre dernier livre, je l'ai dit, vient de paraître chez Flammarion, Le vrai du beau, regard sur la peinture. Mais à vous lire, on comprend que c'est elle qui nous regarde et qui nous apprend, au fond, à voir.
Oui, au fond, elle fait naître en nous un regard dès lors qu'elle-même nous regarde. Et cette interaction, si vous voulez, ou ce croisement des regards fait que l'aventure du spectateur devant un tableau devient absolument passionnante.
Oui.
Parce qu'il est interpellé, il est saisi, il est ému, et aussi il devient curieux.
Curieux.
Oui.
Et curieux de la présence. On va y revenir. Au fond, Paul Audy, votre cogito pictural, c'est comme si les choses nous disaient « vous nous regardez, donc nous sommes présentes au monde ».
Voilà, n'importe quelle image en fait est porteuse de quelque chose de visible, mais elle porte en elle aussi les sources de sa visibilité. Mmh. Et en fait, on ne sait pas trop d'où vient le visible lui-même. La peinture me le donne à voir.
Alors Stéphane Guégan, cette botte d'asperge, comment la décrire?
Comment l'entendez-vous? Comment je la vois? Comment la décrire?
Celle qu'on a sous les yeux.
Celle qu'on a sous les yeux sur un on pourrait dire sur un lit d'herbe.
Oui.
Hein, cette grande tache verte que l'on voit au premier plan et surgit. Une botte d'asperge, donc doublement liée. Manet a peint ce lien, hein, avec lequel on a enroulé les asperges, on les a serrées. C'est toute une technique, d'ailleurs, que les peintres ont documentée.
Depuis le
18e siècle, non seulement on peint des bottes, mais on a même peint le processus du fait de les lier et d'en faire des bottes à l'époque de Manet, sur un fond, donc un fond sombre. La tache verte et la tache blanche sont magnifiées.
Et du pourpre, oui.
Pour le dire comme Paul le dit, effectivement, et peut-être aussi comme Baudelaire qui disait que la peinture rendait la vie plus vivante et plus significative. La présence même de ce légume assez devenu ordinaire à l'époque en est magnifiée. C'est-à-dire qu'on a, on sent une énergie, une intensité, une présence d'autant plus grande que les moyens du peintre sont réduits et employés de façon très 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 concise.
Devenu ordinaire parce que c'était plutôt un mets raffiné, aristocratique
ça l'a été longtemps partagé. Au 19e siècle, ça ne l'est plus. D'ailleurs, il y a une chose amusante à rappeler, c'est qu'Argenteuil, qui passe pour être l'un des foyers de l'impressionnisme, est aussi un haut lieu de production de l'asperge.
De l'asperge. Et alors justement, pour vous, Paul Audy, elle est donc sur son lit de salade ou d'herbe, comme sur un piédestal. Mais un peu ironique aussi.
Oui,
en même
alors
temps,
hein. Je suis très content que vous pointiez le caractère ironique de la mise en scène de cette botte d'asperge qui trône, si vous voulez, sur un lit de salade. Mais il y a à la fois quelque chose de grandiose et de dérisoire.
Oui.
Et je crois que l'ensemble de l'œuvre de Manet est traversé par cette dualité. Il y a quelque chose qui est peut-être beaucoup plus visible dans les grands tableaux, les tableaux importants et très connus, mais justement ce qu'il y a de merveilleux avec Manet, c'est qu'il arrive à injecter cette ironie dans un tableau petit, modeste,
oui.
Et qui en fait est une petite bombe qui éclate aux yeux.
Ah, c'est oui. Une bombe symbolique et, oui. Et c'est aussi pour cela pas seulement, mais également un tableau pour les peintres. Écoutez ce qu'en dit Anselm Kiefer, c'était à l'heure bleue sur France Inter en 2022.
Quand je vois l'asperge de Manet, c'est tellement fantastique. C'est pas la réalité, c'est plus. C'est vraiment... Alors, Manet ou...
Cézanne, les pommes de Cézanne.
Oui, oui, tout. Tout ça, c'est... Je ne peux pas définir ça, non. Je peux juste dire, comme ces artistes métissent, tout, mais surtout Manet, comme ils traitent, comme ils créent un monde. C'est fantastique.
Alors, la peinture, c'est la création d'un monde.
Ah oui, c'est un monde. C'est la création d'un monde, mais, je parle allemand, das ist immer der Streit.
C'est toujours un combat.
Zwischen der vom Künstler aufzubauenden Welt.
Entre le monde que l'artiste veut construire.
Und der sich verschließenden Erde.
Et la terre qui se ferme.
Qui reste secrète.
Ouais.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Ce que vous dites, Anselm Kiefer, c'est que la peinture, ce n'est jamais la représentation de la réalité.
Non, ce n'est pas une photographie. Il y a des étapes entre l'objet et la peinture qui font plus qu'une représentation.
Une vision, vous appelleriez
ça ? Une histoire, même. Une histoire, parce qu'il y a des étapes. Ou une archéologie, parce qu'on peut, à travers les... Die Schichten,
les couches.
Hein. Les couches, on peut aller dans le profondeur. Dans la profondeur, il y a un bohrkern.
C'est comme un forage. Quoi.
Et puis, on pouvait voir...
Une carotte de forage.
Alors, une carotte, justement, carotte. Après l'asperge. c'est comme une histoire, c'est comme une archéologie, Stéphane Guégan. C'est intéressant, parce que, d'une certaine manière, oui, il y a la question de l'histoire de la nature morte, et de l'asperge dans la nature morte, et puis l'histoire de Manet et la nature morte. Ouais. On est à un moment où il recommence, d'une certaine manière, en 1880.
Manet redistribue les cartes de la tradition, même Zola l'écrit, en 67, il est pétri. Il sait tout de la peinture hollandaise, de la peinture française, de la peinture espagnole. Il en fait son miel. Et il reprend bien la grande idée de la nature morte. Le memento mori, la finitude, et le memento vivere. Il faut profiter de la vie tant qu'on peut en jouir.
Oui.
Il est très malade au moment où il peint la botte d'asperge.
Il pense même qu'il va mourir.
Il se sait presque condamné à brève échéance. Et ce livre, Polody disait... Polody parlait de son enjouement, mais c'est aussi un tableau plein d'énergie, une énergie un peu désespérée. C'est aussi ça qui caractérise la peinture de Manet. Elle est du côté de la vie, malgré tout, malgré le drame de vivre, malgré le drame de mourir, malgré les drames de l'histoire, elle est du côté de la vie. Et cette botte est une allégorie de ce que Manet a voulu toujours dire en peinture, dans ses grands tableaux, comme dans ses natures mortes. Donc il reprend la question de la vanité, mais il la redéfinit.
Polody, cette existence, cette expérience de voir dans l'existence, là on est vraiment dans vos thèmes.
Oui, enfin, c'est-à-dire que à la fois Manet s'approprie ou se réapproprie une tradition qui est celle de la nature morte, mais en même temps, il la déplace complètement dans quelque chose qui n'a plus la même signification ou la même portée que la nature morte à l'âge classique, parce que précisément, il y a cette ironie qui vient traverser la représentation. Et même, il y a une volonté d'aller du côté d'une certaine insignifiance. Oui. Alors que la nature morte, elle est portée, si vous voulez, par une saturation du sens. Elle a une vertu allégorique, évidemment, une vertu symbolique, mais en même temps, elle met en scène la présence des choses, pas pour aller jusqu'à la singularité absolue.
Oui,
alors que la botte d'asperge, c'est l'incarnation de la singularité. C'est ça que je trouve extraordinaire.
Oui, mais une singularité qu'on peut mettre aussi en série, alors dans l'œuvre de Manet, qui parfois des poissons, parfois des fleurs, des fruits, et puis y compris d'ailleurs dans ses grandes figures. Hein, il y en a toujours.
Un cinquième de l'œuvre, tout de même.
Oui, un cinquième de l'œuvre.
On a à peu près 400 tableaux pour Manet, donc ça veut dire 70-80. Au début de la carrière, quand il a du mal à vendre les grands tableaux, et à la fin, quand la maladie le réduit à travailler dans l'espace médical, loin de son atelier, loin des modèles, et où, sans doute aussi, la situation personnelle l'oblige à méditer sur la simple existence des choses.
Et puis, puisqu'on parle des choses, justement, on se souvient de cette belle exposition au Louvre,
oui,
de Laurence Bertrand d'Orléac, et il y avait la botte d'asperges.
Elle avait réussi, Laurence Bertrand d'Orléac, à tout réunir, ouais. C'était très impressionnant.
Et notamment, il y avait ce grand peintre hollandais des bottes d'asperges, il en a fait 12.
Adriaan Cort, et non pas Adriaan Cort, puisque, ouais, pour faire écho à votre générique, Adriaan Cort, qui peint d'ailleurs la transparence. Il en fait des gaufrettes de Lubin Beaujean.
Oui.
Ce n'est plus ce légume plein de couleurs qui fascine Manet et qui fascinera Proust, qui a bien connu ce tableau.
Oui.
C'est une chose transparente qui semble rayonner. Et là, pour le coup, la comparaison que Paul Odie faisait avec la peinture religieuse est évidente.
On va poursuivre évidemment cette comparaison avec la peinture religieuse. Il y a un article récent de Yann Blanc qui rappelle que Cort, c'est justement cette corde, cette ficelle qui ligote tout cela.
Ah oui, c'est très juste.
Et que c'est aussi une sorte d'autoportrait.
Oui.
En asperges, abattez-les. Normalement, ça arrive plus tard, mais là, breaking news, je crois qu'on a tout de suite une carte postale de Mathieu Pot-Bonneville, qui est directeur du département culture et création du Centre Beaubourg.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, c'est combien une image? Par exemple, en 1880, Édouard Manet vend à Charles Effrussi une botte d'asperges, huile sur toile 48 par 55 pour 800 francs. Mais Effrussi envoie 1000 francs. Aussi bien, hop, Manet peint une asperge de plus, huile sur toile, le 18 par 21, et il lui adresse avec ce petit mot « Il en manquait une à votre botte ». C'est élégant et drôle. Mais si c'est drôle, n'est-ce pas parce que cette manière de jouer à la marchande suggère ironiquement qu'un mécompte s'est glissé dans la transaction, que ça ne tombe pas juste? Car sans même parler du fait qu'il y a désormais deux tableaux et que l'asperge solitaire ne rejoindra jamais la botte, c'est là moins qu'une asperge, un fantôme d'asperge tout au plus et qui ne se mange pas. Et c'est là plus qu'une asperge. Une asperge sublimée par la pointe du pinceau, l'absente de tout bouquet, aurait dit Mallarmé, de sorte que la petite branchette oblongue et écaillée, comme échouée sur la toile que Manet expédie à son commanditaire, est irrémédiablement à la fois en moins et en trop, faussant la quête du juste prix, égarant le calcul au moment même où son exactitude picturale éclate sous nos yeux. C'est combien une image ? Par exemple, en 2008, répondant au courriel de son ostéopathe, le pressant de s'acquitter de la somme de $233.95, l'artiste David Thorne lui indique par mail que, faute d'argent, il lui adresse ce dessin d'une petite araignée toute mignonne, dessin qu'il évalue à $233.95. Sa correspondante l'informant qu'elle n'accepte pas ce type de moyen de paiement, David Thorne lui écrit de nouveau et s'excuse de sa méprise, lui demandant du coup de lui retourner son image. L'autre ne comprend pas, car il s'agissait d'une image au format JPEG, et comme on sait, lorsqu'on partage numériquement une image, on ne s'en dessaisit pas pour autant, mais elle s'exécute, renvoie le fichier en pièces jointes, de sorte que dans ce fil de messages, qui ensuite fait le tour du monde, il commence à y avoir pas mal de petites araignées toutes mignonnes. Un peu trop d'araignées, mais pas assez de pattes, car David met alors en doute le fait que le dessin qui lui a été retourné soit son dessin original, dans la mesure où l'araignée n'y compte que 7 pattes et pas 8. Il n'aurait certainement pas fait cette erreur grossière. Après quelques échanges et face aux protestations de son interlocutrice qui assure avoir bien fait un copier-coller du croquis initial... Combien d'images, Patrick, dans un copier-coller ? David Thorne assure être navré... Il reconnaît sa méprise et, supposant que la patte manquante était certainement la raison bien compréhensible du refus d'encaisser son versement, il renvoie en paiement une nouvelle araignée, mais pourvue cette fois du bon nombre de pattes, avant, vous vous en doutez, d'essuyer un nouveau refus et de se solliciter très logiquement que son dessin amendé lui soit à son tour retourné, et ainsi de suite. Le petit dessin enfantin de David Thorne n'a certes pas l'extraordinaire justesse de la touche d'Edouard Manet. Sa manière imparable de laisser une chose s'abandonner à sa propre matérialité fibreuse. Il se pourrait toutefois, et surtout si on songe à la terrible ironie de Manet qui captivait Michel Foucault, il se pourrait toutefois que de l'un à l'autre, de la peinture moderne au web art postmoderne, file une même entaille, où les images se dédoublant et se redoublant en elles-mêmes inquiètent la loi de la valeur et se révèlent indociles à se plier au jeu de l'échange sans y introduire un reste ou un excès. Cézanne s'est exclamé un jour, Jacques Derrida en fit même un livre, « Je vous dois la vérité en peinture ». Formule où il reste à démêler, Patrick, le devoir de la dette. Car de la vérité en peinture, je vous en dois combien au juste?
J'adore les légumes. Mais après une journée à l'agence, j'ai pas toujours le temps.
On est vite fous.
France Culture.
Heureusement, maintenant, il y a Rapide Asperge.
Oh, chouette, des asperges.
Rapide Asperge, c'est tout nouveau. Vous appuyez, c'est tout. Et deux minutes après, vous passez à table.
Allons-y voir.
Rapide Asperge, c'est la garantie de belles asperges tièdes.
Patrick Boucheron.
Oh, voilà l'ironie de Michel Foucault. C'est bien d'un philosophe, hein. D'ailleurs, Paul Audy, cette histoire de... Il manque toujours quelque chose, une asperge dans la botte, une
mais il pâte manque, à l'araignée. Il manque certainement quelque chose dans le tableau. Et d'ailleurs, il manque toujours quelque chose dans un tableau. Et effectivement, il manquait une asperge, mais ce qui manque est toujours par excès, jamais par défaut dans un tableau. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce qui manque ressort, ressort toujours d'abord et avant tout.
Bah la voilà, l'asperge la voilà. Manquante, la voilà. Stéphane Delon, ça, c'est la vôtre, si j'ose
oui,
dire.
Oui, c'est la nôtre, c'est la nôtre. C'est celle qu'il faut aller voir au musée d'Orsay, toujours présente sur nos cimaises, orpheline de la botte.
Bah voilà.
Orpheline de la botte de Cologne, mais elle est effectivement à Effrussi, dont on vient de parler, dans ce billet si spirituel, elle est le don qui d'ailleurs nous rappelle l'élégance, la double élégance, élégance d'Effrussi qui paye plus cher que le prix escompté, et élégance de Manet qui renvoie finalement l'ascenseur.
Et puis qui nous rappelle aussi autre chose du point de vue de la sociologie de l'art, c'est-à-dire qu'avec Effrussi, c'est une autre génération de collectionneurs, plus ouvert à l'art moderne, évidemment, et qui nous amène, au fond, à nuancer cette idée du peintre maudit.
Vous avez raison, l'idée du grand refusé. En tout cas, il ne l'est plus à partir de 1872, qui est une date importante. Il a 40 ans, et Durand-Ruel achète massivement sa peinture. Le premier tableau que Durand-Ruel ait acheté à Manet, c'est une nature morte. Et Effrussi entre en scène en 1880, précisément à la date de nos tableaux, et il va acheter entre 80 et 82 neuf Manets.
Oui.
Neuf Manets, c'est important tout de même. Et il va devenir l'un des plus grands collectionneurs vivants du dernier Manet.
Mais il n'empêche que justement, ce dernier Manet, Paul Audy, c'est le Manet révolutionnaire. C'est celui que Georges Bataille décrit comme révolutionnaire.
C'est le Manet qui va s'accomplir totalement dans son projet et qui va le comprendre et qui va le mettre en œuvre. Mais je voudrais ajouter une chose sur la question de la dette.
Oui.
Elle est très importante et je suis très content d'avoir entendu Mathieu Pottebonneville en parler parce que ça pose la question de l'endettement vis-à-vis du commissionnaire ou du commanditaire. Il y va en fait de la liberté de l'artiste. C'est très important que Manet, en quelque sorte, règle les comptes. Parce qu'en réglant les comptes, si vous voulez, il se réapproprie sa liberté. Tant qu'il est endetté, il sent qu'il y a quelque chose qui le lie. Et ça, ce n'est pas
comme
possible. Et à l'âge où c'est l'artiste qui va devenir souverain, il est très important d'affirmer cette liberté en acquittant sa dette.
Bah écoutez, justement, le philosophe de la dette souveraine, c'est Georges Bataille. Écoutez un extrait de son Manet, c'était 1955, extrait lu par Jean Dève, Nuit magnétique, 1983.
Le nom de Manet a dans l'histoire de la peinture un sens à part. Manet n'est pas seulement un très grand peintre, il a tranché avec ceux qui l'ont précédé. Il ouvrit la période où nous vivons, s'accordant avec le monde qui est maintenant, qui est nôtre. D'étonnant dans le monde où il est vécu, qu'il scandalisa. C'est un soudain changement qu'opéra la peinture de Manet, un renversement acide auquel le nom de révolution conviendrait s'il n'en découlait pas une équivoque. Le changement à vue de l'esprit dont cette peinture est significative diffère au moins pour l'essentiel de ceux que l'histoire politique enregistre.
Stéphane Guégan, est-ce que, d'une certaine manière, le livre de Paul Audy qui nous rassemble n'est pas, au fond, un dialogue avec, avec Georges Bataille ?
C'est comme ça que je l'ai lu. Il y a d'autres choses, c'est un livre très riche. Mais Bataille est très présent. Très présent parce que Bataille nous permet de nous libérer de Malraux, en quelque sorte. Oui. Malraux fait de Manet un peintre qui fait disparaître le sujet. Alors que Bataille donne au sujet dans la peinture de Manet un tout autre statut. Il y a présence de la chose, Manet dit le réel, mais en même temps délivre la peinture de toutes ses conventions passées, de ce qu'il appelle l'éloquence. Mmh. Hein, les significations datées en quelque sorte. Et donc il y a chez Bataille l'idée que Manet rend plus active la présence des choses et désactive toutes sortes de codes,
c'est ça.
De significations, d'allégories. Et ça, je trouve que Paul Audy le dit très bien dans son livre.
Et il le dit très bien en faisant travailler justement la botte d'asperge avec une autre chose, pauvre chose ligotée, qui est l'agneau de Zurbaran, où là, effectivement, c'est surchargé de symboles et de significations et de puissance émotionnelle liée au catholicisme. Vous pouvez en dire un mot, Paul ?
Oui, alors ce qui frappe tout d'abord, c'est, en termes descriptifs, c'est une certaine similitude. Comme si, finalement, les deux tableaux étaient faits pour être rapprochés. Alors, quand ils sont rapprochés, on s'aperçoit qu'ils sont faits, en fait, de la même économie iconique, c'est-à-dire exactement l'image porte un seul objet au centre, les deux objets sont ligotés et ils sont posés sur un socle. Ils ne sont que ça, mais la grande différence c'est que l'agneau de Dieu de Zurbaran, qui est admirablement peint avec le même scrupule que la botte d'asperge de Manet, représente quelque chose au-delà de l'image et vient témoigner et de la déréliction de l'homme et du sacrifice de Dieu, tout ça étant une surcharge, comme vous l'avez dit, de sens. Ce qui est intéressant et qui nous ramène à ce que vous disiez au départ, c'est que Manet essaye d'enlever toutes les médiations possibles entre le regard et le tableau. En fait, c'est véritablement révolutionnaire. On ne se rend pas compte à quel point la trajectoire qui va du spectateur au tableau est pleine de tas de choses qu'il faut écarter précisément pour accéder à une vérité que le tableau a, indépendamment du contexte culturel, du symbole, de l'allégorie, etc.
De pure présence. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Guégan ? Parce que je sais bien que les historiens de l'art et Georges Bataille...
Bataille se soucie peu, il n'a cure de l'histoire personnelle de Manet. Il dit des choses d'ailleurs assez drôles sur la biographie de Manet. Il est ignorant de tout ça. Il ne se renseigne pas...
Il lit les écrivains.
Il ne s'intéresse pas au contexte de production. Il ne s'intéresse pas même à l'horizon d'attente. Vendre sa peinture, ça n'entre pas dans les préoccupations de Bataille. Il oublie effectivement la grande culture visuelle et allégorique d'ailleurs de Manet. Et pour revenir à l'ironie dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est précisément aussi la capacité qu'a Manet de mobiliser toutes sortes de savoirs, mais de ne pas les donner pour tels. C'est-à-dire que nous sommes face à un tableau dont il faut reconstruire la signification. Et c'est là où est l'ironie. Est-ce que ce tableau nous renvoie à la mort, ou est-ce que ce tableau, comme Marcel Proust, finalement, le dit du côté de Guermantes, renvoie à la vie et voire même à la sexualité ?
Eh ben, on va réfléchir à tout ça en descendant au jardin d'hiver de Keren Ann en 2000.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de ta. Les années passent, qu'il est loin. dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma
Avec Stéphane Guégan et Paul Audy, nous regardons la botte d'asperge peinte par Manet en 1880. Et ce que nous voyons, c'est au fond comment le peintre parvient à dénaturaliser les choses pour nous mettre face à leur pure présence, la présence des choses qui se voient mieux en peinture que dans les choses présentes ordinairement. Mais après, évidemment, on revient à l'ordinaire avec le regard instruit. Si je vous donne par exemple ces pommes, Paul Audy, les pommes peintes par Cézanne, quelle alors, est la modalité de présence ici?
Alors c'est ça, alors les pommes peintes par Cézanne, elles ont une spécificité, il me semble particulière dans la mesure où elles n'entrent pas de toute façon d'emblée dans le registre classique de la nature morte. Elles sont là d'abord pour leur puissance chromatique, la puissance chromatique qui est en quelque sorte concentrée dans la pomme. Et on s'aperçoit que la touche de Cézanne est toujours une touche très riche, parce qu'elle comporte, si vous voulez, une nuance en elle-même. Ce n'est pas que deux touches créent de la nuance, c'est qu'une seule touche est elle-même traversée par une nuance fondamentale. Et l'autre chose extraordinaire dans les pommes, c'est que leur présence est soulignée par le fait qu'elles sont comme en ronde-bosse, si vous voulez, contrairement à d'autres natures mortes, plutôt plates, parce qu'elles sont prises à l'intérieur d'un régime d'ensemble, eh bien là, la pomme est en quelque sorte, quand on voit en deux dimensions une pomme de Cézanne, on voit l'arrière de la pomme.
Oui.
C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est un tour de force presque magique qui vient du fait que il y a une singularité de la pomme qui vient ressortir. Et quand on voit ce que vous me montrez là, à savoir il y a une dizaine de pommes, eh bien chaque pomme est singularisée à l'excès.
Et c'est là
ça,
où
c'est extraordinaire.
Oui, dans votre livre Le vrai du beau, vous l'opposez par exemple aux pommes de Chardin. Stéphane Guégan, on est bien effectivement dans cette histoire de l'art qui est confronté à cette expérience, qui est plus qu'une expérience visuelle, qui est une expérience humaine de la nature morte.
Hein. Oui, Cézanne et Manet sont des familiers du Louvre,
oui.
Jusqu'à leur mort. Ils se sont confrontés au maître. Cézanne parlait de modulation d'ailleurs, il fallait modeler par la couleur. Il fallait modeler par la... Effectivement, la pomme donne envie d'être croquée à pleines dents. C'est ce que dit Jacques-Émile Blanche, qui est aussi un peintre. Les pommes de Cézanne donnent envie d'être croquées à pleines dents, comme on croque à pleines dents la vie. Ils sont très proches, ils se sont beaucoup vus, Cézanne et Manet, dans les années 1860. Grand respect mutuel. Et on peut dire d'ailleurs de Manet, notamment au moment où ses forces déclinent, que ces natures mortes sont du côté de la vie.
Oui.
Dans les années 60, elles sont plus tragiques. Elles
1860.
Sont proches de la mort. 1860, oui. Pardonnez-moi. Dans les années 1860, le moment hispanique de oui. l'art de Manet, elles sont plus tragiques, elles sont plus sombres. Alors que les dernières sont pimpantes.
Ouais.
Je voudrais juste rajouter
du modelé
une chose.
Au modulé, d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand
ça.
On modèle par la couleur, en fait, on module.
Voilà,
on c'est modèle. Ça qui est extraordinaire. C'est la présence de cette musicalité de la touche qui est typique que de Cézanne et qu'on va retrouver peut-être quand on parlera de la montagne Sainte-Victoire.
Bah justement, Anselme Kiefer en parlait hein, de la touche, de sa vibration et de l'archéologie. Ouais. On peut le dire autrement. On peut le dire plus simplement. Comme le fait Françoise Gerbollet pour le jeune public France Culture 2008, c'est l'histoire d'une jardinière de légumes.
Au centre de la terre, il y a un gros nœud de racines, d'où part un embrouillamini de tiges qui s'entrelacent et se séparent pour traverser la terre de part en part et pouvoir un jour voir le jour quelque part. Au fond du jardin, il y a un long talus de terre fine dont le jardinier prend grand soin pour que, du fond des origines, les asperges sachent qu'elles sont attendues et qu'elles seront bien. Tous les jours, il vient avec sa petite fille surveiller la terre, l'arroser, lui parler. Car la terre aime quand on lui parle. Et les asperges aussi. Ça leur donne du courage. Ça les aide à se repérer dans le noir.
Quand apparaît sur le talus un léger renflement, c'est signe que l'asperge est au bout du voyage et qu'elle peut voir le jour. Délicatement, la petite fille découvre du bout de ses doigts un petit téton violacé.
Les choses se font, Stéphane Dumont.
Oui. Et on pourrait même dire que Manet avait conscience de cette réalité. On a l'impression de voir mûrir l'asperge devant nos yeux. C'est aussi ce qui a frappé Marcel Proust, qui a beaucoup regardé cette peinture chez Effrussi. Il parle d'épi d'ailleurs, à propos de la pointe de l'asperge dont raffolent les gourmets. Et chez Manet, elle est pourpre, elle est verte, elle est jaune, elle est blanche. Il est parvenu à cette mosaïque, finalement, si difficile à peindre. Car au fond, le réel est aussi une difficulté pour le peintre.
Oui.
Quand il veut y adhérer pleinement, quand il veut communier avec la nature. Et Manet y est parvenu. Et notamment dans ses asperges, car il sait qu'il n'est pas le premier à les peindre. D'autres l'ont fait, bien plus tôt, au même moment aussi. Donc il faut dire autre chose. Et ce qui est formidable dans la botte de Cologne, c'est le rapport de proportion. Elle semble envahir entièrement. On a l'impression d'un tableau immense.
Oui.
Parce que le rapport d'échelle fait que cette botte crève les yeux.
Donc il y a une historicité par rapport à l'art et au motif. Et oui. Il y a aussi une historicité à l'intérieur de la matière
picturale.
À l'intérieur. Au
fond, avant de finir dans nos assiettes, elle continue à vivre. Elle est là. Le principe de sa nature, de son être, est visible. Et ça. Finalement, on peut dire que Manet le peint mieux qu'Adrian Cort.
Ouais, et ça, c'est créé vraiment.
Oui, enfin, il y a une persistance dans l'être là qui est affirmée, ça nous renvoie en fait au caractère érotique de l'image. Parce que ces asperges sont vigoureuses, elles sont en érection, si vous voulez. Mmh. Et là, il se passe quelque chose. C'est absolument frappant de voir que les asperges prennent une sorte de valeur érotique très forte.
Alors que dans un autre, pardon.
Et pour comparer avec Cort, justement, Cort peint la botte d'asperges qu'il pose sur une autre asperge qui est une asperge qui est déclinante, qui est en train presque de mourir. Et donc, répondant en fait au cahier des charges du Memento Mori, mais là, véritablement, chez Manet, il n'y a pas ça. Il y a même la volonté d'aller dans le sens contraire.
Mais chez Manet aussi, il y a d'autres formes d'autoportrait ironique, notamment dans un autre tableau, quand péniblement un escargot.
Oui, un dessin que nous avions montré d'ailleurs dans l'exposition sur les choses où il se représente en escargot. Effectivement, la syphilis est en train de rendre difficile la moindre marche. Et c'est cette réduction locomotive au fond. Il l'a désigné dans cet escargot plein d'ironie.
Oui.
Parce que chez Manet, il n'y a pas d'apitoiement sur soi, mais il y a de l'ironie.
Oui.
Et là, il nous dit bien que l'asperge, une certaine forme de sexualité, c'est derrière lui.
Je voulais vous faire entendre un autre philosophe, Henri Maldinet, qui parle de Cézanne. C'était dans les Grandes Traversées, France Culture 2017.
Henri Maldinet.
C'était à la grande exposition Cézanne qui avait lieu à l'Orangerie. J'étais alors jeune homme. Brusquement, un des tableaux m'a stupéfié. C'était la Sainte Victoire de ce qui était alors Leningrad. donc Saint-Pétersbourg. Ce tableau était, pour ainsi dire, vide. Sans trace d'image familière ou non, presque sans trace de couleur. Mais du même coup, tous les autres tableaux étaient frappés d'une espèce d'irréalité. Ils étaient seulement réels par convention. Celui-là m'a imposé cette dimension de la réalité, qui était en liaison directe avec celle de mon existence. Et pour la première fois, sans doute, je me suis senti réellement exister en présence d'une œuvre. L'œuvre étant également surgissante dans sa réalité, dans cette coprésence où nous nous trouvions, cette œuvre unique et moi unique, et tous les deux en cette présence communiquant, ou plutôt connaissant l'un avec l'autre.
On entend palpiter la force de vie dans le grand âge, hein, Henri Maldinet est mort à 101 ans. Ça, c'est pour vous, hein. Exister,
Oui, et surtout la coprésence.
Et la coprésence.
La coprésence, les deux regards qui entrent en contact et qui provoquent l'émotion. En fait, c'est pas tellement l'image qui va provoquer l'émotion. C'est le fait qu'il y a rencontre. La rencontre entre le regard du spectateur et le regard du tableau qui se porte vers lui. Mmh. C'est un contact qui peut rater, si vous voulez, mais lorsqu'il advient, alors là, il y a quelque chose qui nous soulève. Et ça rejoint, si vous voulez, cette sensation du miracle de la présence dont nous parlions. C'est une sensation qui vous transporte et qui vous pénètre au plus profond, parce que finalement elle comporte sa justification en elle-même. Elle n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer à vous.
Et c'est pour ça que votre livre, Paul Audy, Le vrai du beau, je disais que vous philosophiez en admirant des écrivains, des philosophes, œuvres. Et là, il y a un beau passage sur le chemin qui mène de la palpitation de la couleur chez Cézanne au monochrome d'Yves Klein.
Oui, alors ce qui frappe d'abord avec Cézanne, si vous voulez, c'est le principe de discontinuité qu'il y a dans la manière de peindre, avec la création de petites touches blanches qui séparent en quelque sorte les touches les unes des autres, de telle manière à faire palpiter, à faire scintiller, si vous voulez, l'image. Ce serait la manière cézannienne de demander au tableau de nous regarder. En fait, il nous regarde par son scintillement très particulier, qui n'est pas de l'ordre de la brillance pour autant. Bon. Mmh. Alors, si on change de salle et qu'on entre dans une salle où il y a, par exemple, un monochrome d'Yves Klein, un monochrome bleu, enfin, tout le monde le connaît, c'est pour ça qu'on peut prendre cet exemple, eh bien, on s'aperçoit que ce tableau, pour qu'il puisse nous regarder, a besoin que ce bleu particulier soit à l'extrémité de sa singularité. En fait, c'est ça que découvre Yves Klein avec ce bleu, c'est que ce bleu porte en lui une singularité telle que c'est sa singularité qui va nous interpeller. Au-delà des effets de luminescence propres à ce bleu, il est singulier. Et c'est ça, finalement, que recherche la peinture et le scrupule du peintre à peindre. Il va jusqu'au bout de ce qui rend la chose unique. Et je retrouve le mot d'Henri Maldinet.
Oui, alors que ça paraît si simple, un monochrome. Mais justement, c'est ce que vous nous dites aussi, Stéphane Guégan. Le peintre peint la difficulté à peindre.
Oui, oui. Et le réalisme, dans le sens le plus global du terme, plus encore que les autres esthétiques, parce que le réalisme nous fait prendre conscience que on ne peut saisir la réalité qu'imparfaitement, que fragmentairement, et donc il s'agit de peindre cette limite. On imite, mais on se limite aussi. Et pour revenir à Yves Klein, j'y pensais en écoutant Paul Audy, les monochromes relèvent de l'empreinte, de la trace. C'est-à-dire qu'il y a un corps, le sujet laisse une trace sur la peinture. Et on pourrait dire, et c'est très photographique, la photographie enregistre, enregistre la lumière émise par les choses. Il me semble que les peintres de l'époque de la photographie, des Manet, si j'ose dire, relèvent le défi. Il faut laisser une trace. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une représentation, mais presque d'une présence de la chose dans la peinture.
Ah oui, l'impressionnisme est entièrement porté par ça. Et la trace, en fait, il la demande à une sorte de persistance impossible de la lumière. Parce qu'en fait, elle est impossible, et pourtant, elle devient possible grâce à la peinture, à l'acte de peindre. Et c'est là que le miracle se produit, puisque le miracle, d'après Georges Bataille, pour revenir à lui, se définit ainsi, impossible et pourtant là.
Je pense qu'il est vraiment temps d'écouter Yves Klein Blue d'Ali Baba 2023. Bonjour Éléonore Chaline.
Bonjour.
On recule, on va voir le fond des choses, le fond du tableau, là où c'est monochrome.
Oui, exactement. Paul Audy, vous avez décrit en fait le tableau de Manet comme un seul objet représenté, placé sur un support et ficelé. Je voudrais décaler un peu le regard de cette présence vers ce qui lui permet de se détacher, le fond. Et dans la botte d'asperge, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, le fond... Il est très difficile à décrire. Mmh. Il est brun, sombre, un peu moucheté, un peu tacheté, presque noir parfois. Il prend des tons plus dorés et violacés à l'arrière des pointes d'asperges. C'est très difficile d'en avoir une bonne reproduction. Quand on regarde sur Internet les reproductions du tableau, ça varie totalement. On a parfois presque l'impression d'un fond noir.
Oui, tout à fait.
Parfois, il est brun, il est doré. Et là, vous l'avez ici, il est un peu violet. Mmh. Il tire plus sur le pourpre. Et c'est très, encore, je trouve, encore plus difficile de le décrire, d'arriver à décrire ce fond. Voilà. Moi, ce qui me frappe chez Manet, dans ses natures mortes, dans beaucoup de ses tableaux, c'est ces fonds monochromes faits de dégradés de tons où on peut voir la peinture, on a l'impression qu'on peut la sentir presque, et qui travaille ses fonds à faire apparaître la lumière. Je pense par exemple au Torero mort en 1864, à la jeune femme au perroquet, au Fifre en 1866, même au portrait de Berthe Morisot en 1874 avec ce fond brun. Et ces fonds monochromes sont tous sauf lisses. il livre les objets, visages, choses, corps, dans une sorte de suspension assez troublante, avec peu d'ombre, et les objets viennent se détacher du fond, qui exerce ici une puissance d'attraction. Georges Bataille, pour y revenir encore une fois, dans son Manet dit, je le répète, ce qui compte dans les toiles de Manet n'est pas le sujet, ce qui compte est la vibration de la lumière.
Alors cela dit, Manet n'est pas l'inventeur du fond uni.
Voilà, c'est pas du tout le premier, on en a parlé, le XVIIe siècle hollandais, la nature morte, la peinture espagnole, mais Manet va lui donner une sorte d'épaisseur, voilà, qui organise la présence de l'objet. En regardant l'étoile de Manet, l'arrière-plan a ce jeu, enfin fait un jeu avec le spectateur, effet de détachement de la figure et effet de saisissement. Et c'est Michel Foucault qui parle d'un effet de carte à jouer pour le fifre. Et je trouve ça vraiment extrêmement frappant. Et donc j'avais envie de réfléchir ici à cette notion de fond, comment elle est définie finalement par les dictionnaires de peinture, par les manuels de peinture, les traités de restauration à partir du XVIIIe siècle, à partir de cette période-là. Et notamment grâce aux écrits d'une historienne qui s'appelle Barbara Jouve, qui a travaillé sur cette question des fonds et de leur matérialité. Elle cite notamment un dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure de Charles-Henri Vatelet en 1792, qui va distinguer deux sens du mot « fond ». Soit dans la qualification d'une partie matérielle de la peinture en tant que couche de peinture après encollage du support, soit pour caractériser la description d'un objet représenté en peinture, plusieurs plans ou plusieurs parties du motif. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on appelle fond à la fois la matière sur laquelle on fait le tableau et cette question des plans, des différents plans, les plans les plus reculés du tableau, mais aussi le champ sur lequel sont peintes les figures, oui. Parce que c'est ces deux choses-là en même temps. L'objet représenté va ainsi pouvoir se détacher en clair sur un fond brun, ou l'inverse, on dirait alors qu'il se détache en brun ou qu'il se détache en clair. Et ça, c'est le dictionnaire des arts du dessin de Boutard en 1826 qui dit ceci. Quelquefois, le fond est d'une seule couleur, dégradé de ton et ne représente en lui-même rien, comme il se rencontre assez souvent dans les portraits et comme il se rencontre dans cette nature morte de Manet. Le fond, c'est la matière sur laquelle on peint, c'est aussi l'arrière-plan dans la composition et c'est l'espace sur lequel les figures se détachent. Et c'est ce que redit Étienne Souriau dans son vocabulaire d'esthétique. Justement, on a évoqué aussi à plusieurs fois la photographie. Après la peinture, la photographie s'empare à nouveau de cette question des fonds pour le portrait, pour la nature morte aussi, des fonds peints ou unis. Et là, on a beaucoup d'écrits de photographes qui discutent de comment doit être le fond pour faire un portrait, par exemple. Et donc, quelqu'un qui s'appelle Auguste Belloc, qui écrit en 1862, « Un fond bleu indigo ou un fond gris ardoise comme la couleur la plus favorable pour le portrait. » Et pourquoi ? Parce que sur l'une ou l'autre de ces nuances, la figure se détache mais sans dureté, contrairement au fond blanc. Et on critique certains photographes, le goût du public pour les fonds blancs, ou on critique aussi les accessoiristes pour les fonds peints et les fausses balustrades qu'on trouve dans la photographie du 19e siècle. La norme du fond clair, elle se constitue progressivement. Au cours du XXe siècle, avec le Bauhaus, on a tous en tête les photographies de Lucia Molli, des objets, les tasses, les théières, les lampes. Vous pouvez penser aussi plus tard, dans les années 50, à Walker Evans, les beautés de l'outil commun, hein, avec les truelles de maçon, les clés à molette et les pinces à bec plat sur fond lisse, uni. Les photographies de studio, etc. Si on regarde Irving Penn, si on regarde Richard Avedon, les fonds blancs, on voit comment le fond peut être utilisé par les photographes et en quoi il devient une signature en fait de l'image aussi. Et donc le fond, c'est à la fois ce qui est là pour disparaître, se faire oublier, et en réalité, il est un puissant moyen de faire ressortir l'objet et de faire voir.
Merci, merci Éléonore Chaline. C'est intéressant, il y avait Anselm Kiefer qui disait au début de cette émission, c'est pas de la photographie, c'est faussement anodin, au fond, de dire, Stéphane Guégan, que Manet est un peintre autant de la photographie.
Oui, je crois qu'il l'est profondément. Pour faire écho à cette chronique, le fond sombre est une pratique ancienne, mais pour aller dans le sens de Paul Audy, car j'aime beaucoup le rapprochement avec l'agneau pascal, Zurbaran, je pense qu'il a valeur dans la botte d'asperge du fond noir du marat de David. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sacralité. Dans le livre de, sur Matisse, que vous avez eu la gentillesse de citer, que je viens de publier, j'ai beaucoup insisté sur la phrase que prononce Matisse en 1908. J'ai, pour ainsi dire, peint la sacralité du monde, du réel. Il y a de cela chez Manet.
Paulody, c'est intéressant. C'est effectivement cette pure présence qui est détachée du sujet.
Suis très impressionné par cette comparaison. Effectivement, il y a une forme de sacralité. Je vais rajouter peut-être un mot qui, en fait, qualifie ce fond abstrait duquel tout se détache. C'est le silence. C'est la peinture du silence, en quelque sorte, le fond. Il n'y a pas de bruit dans le fond. On a l'impression que c'est une chambre sourde, si vous voulez, dans laquelle les objets sont posés pour qu'ils aient eux-mêmes un maximum de résonance. Et ça pose la question de savoir, on a parlé de la musicalité du peintre ou de la peinture, mais elle inclut le silence. Inclut le silence et le fond est là pour en témoigner, je crois.
Et on pourrait d'ailleurs aussi parler de la théâtralité, parce qu'il y a le fond de scène, Éléonore Chadine.
Il y a cette histoire de rideau qui est l'espace où on joue. Et d'ailleurs, dans beaucoup de tableaux de Manet, on a l'impression que c'est une grande toile mouchetée qui sert dans l'atelier derrière les personnages. Et que c'est ça qui permet leur détachement. Ici, on s'extrait du naturalisme. On n'est pas dans une salle précise, on n'est pas dans une cuisine, pas nécessairement.
Stéphane Guégan.
Là, simplement, rappeler tout simplement qu'on parlait de la peinture du silence à propos de la nature morte longtemps. Hein, c'était la formule qu'on utilisait. C'est une peinture qui normalement, provoque la méditation, le regard intérieur.
C'est vrai.
Et la mise en silence, finalement, de soi.
Et pour parler de Manet, on pourrait dire qu'avec le bar aux Folies Bergères, enfin, le fond est un miroir. Mmh. Et là, alors là, c'est d'une complexité extraordinaire. On entre dans un fond qui est sans fond. Et là, c'est absolument génial d'avoir réussi un tableau pareil. Parce que, en fait, il est logiquement invraisemblable, en plus. Donc
c'est une belle définition de Manet. Oui. Cette hésitation entre l'image comme représentation et l'image comme peinture.
Et tout cela, effectivement, nous faisant exister plus intensément dès lors qu'on le regarde.
Je crois. Et ça provoque une émotion extraordinaire, cette sensation d'exister face au tableau.
J'ai froissé mon visage, le temps n'y est pour rien, j'ai détruit notre image. De mes mains, et demain, si tu viens, si tu frappes à ma porte, ne sois pas étonné, je suis de nature morte. Mes larmes sur ton visage sont des vagues, et mes mains, comme des lames de fond, m'éloignent de toi sans fin. Je ne peux y revenir, ne suis plus assez forte, noyée loin du rivage, je suis de nature morte.
Robert, Nature Morte, album Princesse de Rien, 2000. C'était Allons-y voir, merci à vous trois, Paulody, Stéphane Guégan et Éléonore Chaline. Les références de vos livres, de vos parutions, sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Ange Auduc et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.